Bonsoir Renaud Lavigne, on vous retrouve lundi pour un nouveau carnet de la création. Bonsoir à toutes et à tous.
La dispute. Ce soir, la littérature.
Ce soir, Émilie Barnett et Florent Georgesco se font face à notre sommaire, La maison dans laquelle, de Mariam Petrossian, et La zone, de Marc-Yann Camiche. Nous évoquerons aussi plus rapidement Une femme chez les chasseurs de têtes, de Titaïna, et Une vie de paysage, de Béatrice Comanger. Vers 21h20, Antoine Guillot nous livrera la revue de presse culturelle quotidienne de La Dispute. Encore des cadeaux à gagner grâce au jeu de La Dispute ce soir, des invitations font plaisir à Émilie Barnett pour l'exposition consacrée à Paola Modersohn-Baker jusqu'au 21 août au Musée d'Art Moderne de la ville de Paris. Enfin, nous avons rendez-vous avec le chef d'orchestre et directeur de l'Opéra National de Bordeaux, Marc Minkowski, qui est toute cette semaine l'invité de La Dispute. Cap à l'Est pour cette dispute en Ukraine et en Russie, aussi un goût pour les marginaux dans les deux livres dont nous allons parler, en commençant par un livre de plus de 900 pages, grand format, que Florent Georgesco s'est excusé d'imposer à sa partenaire de jeu ce soir, Émilie Barnett, mais en précisant qu'il était indispensable d'en parler tant le choc à sa lecture fut grand. Voilà, pas le choix, vous allez nous dire pourquoi dans un instant. Il s'agit de La maison dans laquelle, de Mariam Petrossian, publié aux éditions Toussaint L'Ouverture, dans une traduction de Raphaël Pache. La maison se dresse aux confins de la ville, en bordure d'un quartier appelé Les Peignes, où d'interminables immeubles sont alignés en rangs crénelés, tels des dents plus ou moins régulières. Séparés à la base par des cours de béton servant d'aire de jeu, les tours sont percées d'innombrables yeux. Là où elles n'ont pas encore poussé, s'étendent des ruines masquées par des palissades. Les enfants, d'ailleurs, s'intéressent bien plus aux décombres qui s'y cachent, refuge des rats et des chiens errants, qu'aux espaces aménagés pour eux. C'est sur ce territoire neutre, à la frontière entre deux mondes, les immeubles et les terrains vagues, que fut bâtie la maison. On l'appelle aussi la Grise. Son ancienneté la rapproche des ruines, dernier vestige des édifices de son temps. Elle est isolée, les tours gardent leur distance, et plus large que haute, elle ne ressemble pas du tout à une dent. Ses trois étages donnent sur une autoroute, son toit est hérissé d'antennes et de fils, sa chaux s'effrite, ses lézardes pleurent. Elle est aussi dotée d'une cour, un long rectangle cerné de grillages. Autrefois, sa peinture était blanche, désormais c'est le gris qui domine, sauf pour le mur à l'arrière qui a jauni. Côté cour s'entassent garages à pentis, bac à ordures et niches à chiens. La façade, quant à elle, est triste et nue, comme on pourrait s'y attendre. Personne ne l'admettra, mais les habitants des tours ne voient pas la maison grise d'un bon œil. Ils préféreraient ne pas la voir dans leur voisinage. Ils préféreraient, en vérité, qu'elle n'existe pas du tout. Première page de ce livre, traduit du russe, même si Mariam Petrosian est arménienne, née en 69 à Erevan. Elle a rédigé ce livre, nous apprend-on, sur une dizaine d'années, à partir de ses 18 ans, et n'a pas songé, paraît-il, à le faire publier. Et puis il est passé de main en main, et une copie est finalement tombée entre les mains de celle d'un éditeur, qui publiera le livre en 2009. 250 000 exemplaires vendus en Russie, traduction dans une dizaine de langues, aujourd'hui le français. La maison dans laquelle, c'est le seul livre écrit par Mariam Petrosian. Quelle est donc cette maison qu'on vient de décrire dans cette première page? Alors c'est la première question qu'on se pose en ouvrant ce livre. Mais là, déjà la réponse ne va pas de soi. Mais Florent Georgesco, première raison de cette indispensabilité à parler de ce livre.
Écoutez, c'est... Dans une vie normale, on tombe sur un livre comme ça tous les 5 ans, mettons. Dans notre cas, c'est plus rapproché, on en lit beaucoup. Mais sincèrement, c'est une des découvertes les plus excitantes, les plus passionnantes que j'ai faites moi dans ces derniers mois, en tout cas. Le livre est en effet un phénomène en Russie. Je crois qu'il y a des sortes de communautés qui se forment autour de ce livre, que des gens se confondent avec les personnages, entrent dans cet univers.
Et envie,
oui, même
hein.
Eux.
Oui, parce qu'on va en parler.
Susciter
qui
ça.
Habite la maison
et
hein.
Qui habite la maison? Ben donc tout le monde peut y entrer finalement.
Ben, non.
Pour autant, c'est en effet le point de départ est que c'est une maison. En fait, la situation est tout à fait simple au départ. C'est une maison d'enfants handicapés de toutes les manières possibles. Certains, il y a des roulants, ceux qui sont sur leur fauteuil. Il y a un seul aveugle. L'aveugle, c'est son nom. Il y a toutes sortes de gens. Il y a aussi ce qu'ils appellent les irrationnels, ceux qui n'ont, disons, pas leur esprit. Tout le monde se mélange là-dedans. Mais tout l'enjeu du livre est à partir de cette donnée très simple, donc on pourrait être devant la chronique d'un centre pour enfants handicapés. L'auteur creuse cela à mesure jusqu'à en faire un monde, d'où sans doute que tant de gens aient envie de s'y engouffrer malgré ce qu'il peut y avoir d'effrayant au départ. Et il y a une sorte de multiplication constante des récits dans une tension qui finalement emmène le lecteur vers un autre récit derrière et vers quelque chose qui, d'une part, touche au fantastique, et peu à peu on s'aperçoit que dans cette maison, c'est une poupée russe pour le coup, dans cette maison d'autres maisons se trouvent, et y compris d'autres mondes. Il semble peu à peu, et c'est un des grands enjeux du livre, qu'on puisse traverser en un sens les murs de cette maison et aboutir ailleurs. Mais au-delà de ça, donc au-delà de ce fantastique qui est peut-être le ressort narratif le plus important du livre, il y a progressivement toute une réinterprétation de l'humanité au fond à travers ça, à partir de la situation d'enfant handicapé, à partir du fait de ne pas avoir de jambes, de ne pas avoir de bras ou que sais-je, on arrive à une sorte d'évidence de cette humanité qui devient concurrente de l'évidence commune de l'humanité. Et ce qu'il y a quelque chose d'extrêmement émouvant par l'intimité dans laquelle on entre avec ce monde et avec cette construction de monde. Parce que ce qu'il faut dire, ce que je ne dis peut-être pas assez, c'est que il y a, on s'en doute, énormément de personnages. Il y a une dizaine de personnages principaux, mais tout le monde passe, toute cette maison passe à un moment ou à un autre. Et l'activité principale de ces personnages principaux, en tout cas, est d'inventer des histoires concrètement dans la manière dont ils définissent leurs relations, car au fond c'est une expérience anarchiste, cette maison. On s'aperçoit qu'il y a des éducateurs, il y a des professeurs, mais tout cela n'a aucune importance décisive sur le mode d'organisation de la vie. Donc il y a de l'invention de la vie, concrètement pour chacun des personnages, il y a des groupes, des chambres collectives qui constituent le territoire souverain de certains groupes, et tout un ensemble de relations entre ces groupes d'ordre donc politique s'est instauré. Des lois existent, on va jusqu'à la guerre. Ça c'est parfois très violent, il y a des meurtres, il y a tout. Ils réinventent notre manière de vivre à tous, en fait. Mais au-delà de ça, ils racontent des histoires. Sans cesse. Ils semblent d'ailleurs ne faire que raconter des histoires, mais il se trouve que ces histoires finissent par se réaliser souvent. ces histoires décrivent ces mondes dans ce monde qu'est la maison et les créent en même temps qu'elles les décrivent. Et il y a dans cette effervescence d'histoire quelque chose qui est magnifiquement baroque, magnifiquement riche, drôle, émouvant, tout ce que l'on veut, mais qui encore une fois tend vers un but unique et donne cette impression très puissante qui fait vraiment pour moi de ce livre l'événement que je disais, cette impression de tendre vers une vérité qui va nous être dite à nous, lecteurs, hors de la fiction. Quelques livres ont cette puissance, je dirais presque prophétique, celui-ci-là, ô combien, à mes yeux.
Alors, Émilie Barnett, vous avez dû faire une drôle de tête quand vous avez eu entre les mains le livre choisi la semaine dernière par Florent.
Elle a envoyé quelques fléchettes sur ma photo.
Il traînait sur mes étagères depuis quelques semaines déjà, sans que je n'ose l'approcher, voilà. Intimidée que j'étais face à cette...
J'ai été
d'abord un peu décontenancée, puis ravie de m'y plonger. On entre dans ce livre et on s'y plonge un peu comme dans une cathédrale en pain d'épices et en chocolat, puisqu'on plonge littéralement dans un monde enfantin, même si effectivement il est question de mort, de crime, de fantômes,
comme dans tout le monde enfantin,
de potions magiques. Mais voilà, une des forces du livre, c'est qu'il entremêle parfaitement à la fois la question de la mort et celle de l'enfance, comme l'a fait quelqu'un comme Tim Burton, par exemple, qui est cinéaste, mais qui a su très bien comprendre ça et le filet, le tricoter dans ces films. J'ai pensé aussi à ce film, pour rester dans le cinéma, d'Alan Parker. Je ne sais pas si vous vous souvenez, Bugsy Malone, qui était une parodie de film mafieux joué par des enfants.
Ouais.
Et on a effectivement sans cesse l'impression que ce sont des enfants qui jouent à la guerre, qui jouent au monde des adultes, sans en être eux-mêmes. Et j'aime beaucoup ce décalage. Qu'est-ce qui se passe dans ce livre? C'est un livre qui fait 950 pages, donc c'est un peu troublant parce que du coup, on a l'impression de plonger dans une temporalité, une chronologie de lecture qui n'est pas du tout celle qui est habituelle. C'est-à-dire que il y a un moment donné où on ne sait plus trop où on ne sait plus trop dans quel temps on est. Il y a plusieurs fils narratifs, il n'y en a pas qu'un seul, il y en a à peu près une dizaine, une quinzaine, une vingtaine. C'est un livre totalement multi-fictionnel. Moi, j'ai eu le sentiment de ne pas suivre effectivement une trajectoire, mais plusieurs trajectoires d'enfants. Il y a énormément de dialogues, il faut le dire. On est vraiment à hauteur et vraiment, on est à peine au-dessus de l'épaule de ces enfants, quoi. On est vraiment avec eux, parmi eux. Donc ça, c'est très troublant. Et on a l'impression d'être dans un monde qui est libéré totalement des horloges. Et là, quand je dis ça, je pense évidemment à Lewis Carroll et à Alice au Pays des Merveilles. Je ne sais pas si vous vous souvenez, la montre folle qui se fait taper dessus, qui vraiment déraille totalement. Et c'est ça qui se passe, je pense. Et c'est important, effectivement, de parler de ce livre dans la filiation qu'il entretient par rapport à l'œuvre de Carroll. C'est qu'on est dans un monde qui est libéré des contingences habituelles, temporelles. Donc ça, c'est une première chose. Après, je ne sais pas si on a suffisamment peut-être accentué, appuyé sur la question du fantastique dans le livre. Je trouve qu'il y a vraiment un bain d'irréalité absolue. On se demande si on n'est pas dans le château des envoûtés de Gombrowicz.
Mais qui est progressif. Enfin,
parce qu'il
y a une initiation progressive au fantastique.
Voilà, absolument.
C'est pas un monde arbitraire au départ.
Il faut dire qu'au début, on ne sait pas si on est dans un hôpital, une clinique, on découvre
d'abord
ce lieu. C'est un lieu qui est complètement réinterprété, passé au filtre de l'imaginaire de ses enfants. Donc on voit ces pièces, on se dit qu'ils sont dans un château, après on découvre un lieu qui s'appelle la cage, qui en fait se trouve être une cellule d'isolement.
Mais on se demande comment ça circule là-dedans, parce qu'effectivement c'est une maison faite pour
s'y perdre,
à tout point de vue.
Voilà, c'est un château hanté, c'est un château qui est mouvant, dont les limites...
Il est impossible, je pense, je ne sais pas pour vous,
de faire une carte, un plan. On pourrait s'amuser à le faire.
Mais je pense que c'est impossible.
On pourrait devenir fou, je pense que les fans...
Je pense qu'il y a une sorte de métamorphose continue du lieu lui-même.
C'est comme le cube, ça se réagence recommence sans cesse, enfin en tout cas dans ce qu'on peut imaginer.
Ce qui fait vraiment partie du charme, je trouve.
Mais ce qui fait glisser vers le fantastique. Mais on s'y perd,
c'est-à-dire c'est une absence de repère géographique, temporel, absolu. Et je crois que Marianne Petrossian a dit qu'elle n'avait pas écrit ce livre, je crois que c'est en quatrième de couverture, mais qu'elle l'avait
vécu.
Ouais. Elle s'y est même, à mon avis, perdue, parce que 15 ans à écrire ça tous les soirs, je pense qu'on devient
et plus rien
fou,
après.
Ou,
c'est ça, quel drôle de
alors
parcours.
Alors peut-être, elle n'est pas si âgée, cette dame. Donc
elle
peut-être
est en 69, donc elle
enfin,
a,
moi
elle
j'appelle
a...
ça jeune.
Oui, oui, extrêmement jeune, tout à fait. Oui,
si on compte à peu près bien, elle doit avoir quelque chose comme 47 ans, et ça veut dire que ça fait 20 ans qu'elle a fini d'écrire ce livre. Et qu'elle n'en a pas écrit depuis.
Oui, alors donc, apparemment, elle est plus ou moins artiste, elle fait des choses à côté,
elle
s'occupe autrement.
Est-ce lu mais bon.
Oui, voilà. Donc, il y a un silence volontaire depuis l'achèvement de ce livre, c'est vrai.
Oui. Bah, que faire après un livre comme ça?
Ça me paraît difficile.
Ouais, c'est pas...
Non, mais le fantastique, c'est vrai qu'il il glisse, enfin, il apparaît comme ça, mais notamment, justement, dans la désorientation, Émilie Barnett parlait de cette montre folle et de l'absence de repères habituels. Mais ça passe aussi, ce qu'on le disait, par le plan de la maison, c'est-à-dire qu'il est, il est irréaliste, donc finalement fantastique, forcément, puisque les pièces changent, les parcours changent.
Exactement, oui. Mais j'insiste sur l'aspect progressif, en effet, du fantastique. Une des forces du livre est de faire de ce recours au fantastique un enjeu intérieur pour les personnages. Parce que, en revanche, enfin, c'est le mot revanche d'ailleurs est approprié. Le temps prend sa revanche dans le livre. Il y a une volonté de nier le temps. Il y a une volonté de le dilater pour l'habiter d'une manière qui libère de la contrainte temporelle. Mais tout le livre est tendu vers une catastrophe. Et ça, on peut le dire, c'est pas un dénouement, c'est pas une surprise, c'est la catastrophe très simple du départ de la maison. Nous sommes dans une promotion, une classe d'âge. Là, il y a plusieurs époques dans le livre, mais enfin, l'époque principale, la ligne continue, est constituée de la vie de personnages qui ont 17, 18 ans pour la plupart. C'est-à-dire qu'il arrive au moment où on va sortir de cette maison. Et tout le livre est traversé par le souvenir d'une catastrophe qui a été le départ d'une promotion, qui semble-t-il, et ça c'est merveilleusement traité comme un souvenir terrifiant
pour
tout le monde.
C'est la mythologie propre
de la maison.
Lui non
plus, on n'arrive pas à le reconstituer complètement, parce que c'est une mythologie en effet. Donc, un départ de promotion qui a apparemment tourné au bain de sang. On ne sait pas ce qui va se passer pour le départ de cette promotion-là, mais tout le monde, tout tend vers ça, et à mesure qu'on s'approche de cette échéance, le fantastique progresse et grignote le livre. Et non pas par une sorte de revanche fantasmatique de la part, non pas par un ressort psychologique, ou plutôt le ressort psychologique parce que cette maison est un psychisme, parce que le temps, le lieu sont des psychismes, le fantastique est totalement réel pour les personnages, ce ne sont pas des histoires qu'ils se racontent, ou plutôt ce sont des histoires qui deviennent vraies et qui ouvrent la possibilité d'un monde qui soit en quelque sorte le monde de la maison continué, qui permette de ne pas aller à l'extérieur. Ce mot d'extérieur est très important dans le livre. C'est la représentation qu'ils ont à peu près de l'enfer, tout ce qui est en dehors de la maison. Le fantastique, c'est ce recours qui va permettre de s'enfoncer encore plus dans la maison, d'échapper encore plus au monde qui est promis et donc d'échapper à cette catastrophe qu'est la vie adulte.
Émilie Barnett.
Oui, il faut dire aussi peut-être que ces adolescents un peu monstrueux sont, mais pourtant très attachants, sont tous de vrais adolescents très incarnés. On n'a pas du tout parlé des personnages, on les a cités uniquement, mais il faut dire que le livre commence sur un personnage qui est, on va dire, le personnage central, qui s'appelle Fumeur, qui est en fait expulsé de son groupe, le groupe auquel il appartient, parce qu'il porte des chaussures trop rouges et qu'il fume des cigarettes. Donc les faisans l'expulsent et il va rejoindre
un groupe. Parce que c'est le groupe des failles. Pour le dire en un mot.
Voilà, parce qu'il y a le groupe un peu plus rock'n'roll qui s'appelle le groupe des oiseaux, le groupe des chiens, je ne sais plus.
Il y a les rats.
Qui va rallier les rats, voilà. Qui
et
vont
lui,
l'adopter.
Va rejoindre le groupe qui n'a pas de nom d'ailleurs, le quatrième groupe.
Donc voilà, il y a une petite jeune femme qui s'appelle Rat, dont il est dit qu'elle est maigre comme un squelette et qui se trimballe avec un rasoir au cas où il prendrait des envies suicidaires. Et puis mon personnage préféré qui s'appelle Tabaki, qui est un peu le philosophe, le bouddhiste du groupe. groupe et qui passe son temps à fumer sa pipe et à lâcher comme ça des sophismes et des contes en permanence.
Et des chansons, à inventer des chansons sans cesse. Tout ouais. événement chez lui se transforme en chanson.
Et vraiment, juste pour finir, ouais. moi je rendrai hommage simplement à Toussaint Louverture, on l'a pas fait, mais qui republie, qui a l'art quand même de faire remonter à la surface des trésors, un peu des ovnis littéraires un peu oubliés.
Oui, on en parle régulièrement et en plus ils font des très beaux
Carou,
livres.
Carou, Steve Tessich notamment, qui on avait parlé ici.
C'est vraiment une très belle maison.
Très beau travail.
Dernière question, réponse courte, question intéressée parce que je suis loin d'avoir fini le livre. Est-ce qu'il y a une fin, mais sans me dire laquelle évidemment.
Oui.
Est-ce que tout cela nous amène quand même quelque part vers une forme de résolution, hein?
Oui.
Hein?
Ah mais totalement. Nous ne sommes pas d'accord.
Bon. Non parce que moi j'ai très envie de poursuivre, mais avec les rythmes qui sont les nôtres.
On vient de définir votre avenir à peu près comme il est défini dans le livre. Les deux sont vrais en même sens.
Je m'en doutais un petit peu.
Je trouve la fin en tout cas absolument magnifique. Donc tenez, allez jusque là. C'est une ça va très loin dans le temps. Non, mais ça va. Il y a un épilogue. Elle ne nous lâche
pas. C'est qu'ils vieillissent tous.
Ils vieillissent. Voilà. Ils ont des vies même.
Bon, alors, mais peut-être. Mais pas tous.
Mais pas tous. C'est le. Vous penserez à nous quand vous lirez les tout derniers mots du livre.
D'accord.
Qui disent la vérité du livre. Ça tourne autour de l'idée de joie. Et c'est peut-être le secret le plus profond du livre. Il y a une sorte de joie tonitruante dans cette sorte d'effervescence qu'on a essayé d'un tout petit peu d'écrire.
Bon. Je penserai à vous donc peut-être au mois de juillet ou au mois d'août. Il reste temps de finir.
C'est le bon moment pour
La maison pour dans laquelle de Mariam Petrossian, publiée aux éditions Toussaint Louverture, dans une traduction, quel boulot aussi, de Raphaël Pache.
France Culture.
La dispute.
Arnaud Laporte.
Nous parlerons tout à l'heure du livre d'un jeune Ukrainien, Makryan Kamish, La Zone, publié chez Artaud. Avant cela, nous retrouverons l'invité de la dispute, le chef d'orchestre Marc Minkowski. Nous évoquerons aussi plus rapidement Une femme chez les chasseurs de têtes de Titaïna et Une vie de paysage de Béatrice Comanger. Une bonne part de sa vie dans la lecture des journaux, Antoine Guillot, pour assurer la revue de presse culturelle quotidienne de la dispute. Bonsoir cher Antoine.
Bonsoir Arnaud Laporte, bonsoir à toutes et à tous. Les Inrecuptibles ont révélé que Yann Moix aurait de plus en plus de difficultés avec son éditeur Grasset. Motif, ses chroniques dans l'émission de Laurent Ruquier, On n'est pas couché, où il éreinte quelquefois les écrivains. L'éditeur ferait pression pour que l'auteur de naissance épargne les auteurs de la maison et aurait communiqué les questions du chroniqueur à Michel Onfray, invité en septembre. Si elles ne sont pas journalistiques, ces méthodes sont, paraît-il, éditorial, commente le magazine littéraire qui nous apprend dans le même numéro que Richard Millet, l'éditeur notamment des Bienveillantes de Jonathan Little et L'art français de la guerre d'Alexis Génie, a été mis à pied par son employeur, les éditions Gallimard. Il risque le licenciement. L'écrivain avait provoqué la colère du milieu intellectuel. Rappelez-vous, c'était en 2012 avec son éloge littéraire, entre guillemets, du Norvégien Anders Breivik qui avait assassiné 77 personnes. Mais ce n'est pas pour ça que son éditeur tic. Cette fois, il lui est reproché d'avoir publié dans la revue littéraire un éditorial hostile à Maïlys de Kerangal. L'article intitulé « Pourquoi la littérature de langue française est nulle ?» point d'interrogation, interrogeait la place de l'auteur de réparer les vivants dans le champ littéraire. Zola écrivait pour la bourgeoisie cultivée, Madame de Kerangal le fait pour la petite bourgeoisie internationale déculturée, commentait l'éditeur. Fort heureusement, tous les écrivains ne sont pas aussi cruels avec leurs confrères, comme l'a remarqué Mohamed Aissaoui dans le Figaro littéraire. Dans son dernier livre, Il est avantageux d'avoir où aller, Emmanuel Carrère évoque son goût pour le roman culte de Luc Reinhardt, L'homme D, l'histoire d'un psychiatre new-yorkais qui joue les décisions de sa vie avec un D. Le 11 février dernier, dans la grande librairie, le romancier et François Bunel ont parlé de L'homme D avec enthousiasme, un chef-d'œuvre absolu, selon Bunel, extraordinairement jouissif, ajoute Carrère, et les lecteurs ont suivi. Les ventes sont relancées. ce titre appartient à notre catalogue de fonds. Il a toujours bénéficié d'une aura particulière, affirme-t-on aux éditions de l'Olivier, qui l'ont réédité à plusieurs reprises, dont la dernière fois en 2014 dans la collection Replay, alors qu'il se vendait à 3000 exemplaires par an en moyenne. L'éditeur explique que depuis la grande librairie, 19 000 exemplaires ont été réimprimés après l'émission. Qui a dit que la télévision n'aidait pas la littérature? Plus efficace, plus coûteux aussi pour promouvoir un livre, une bonne campagne de publicité peut faire l'affaire, y compris dans les salles de cinéma, comme la bande-annonce qu'on voit ces jours-ci pour vanter Indécence manifeste, le nouveau roman de David Lagercrantz chez Actes Sud. Pourtant, constate Véronique Richebois dans Les Échos, dans le microcosme littéraire, les démarches ostensiblement marketing demeurent nimbées d'une aura sulfureuse. La pratique des bandes-annonces et des campagnes de publicité assorties d'extraits de livres est très courante dans l'univers anglo-saxon, alors qu'en France, on juge ça cheap, racoleur, analyse l'écrivain et publicitaire Grégoire Delacour, l'auteur de La Liste de mes envies, et longtemps en charge de la communication de la collection Folio. En France, on a encore beaucoup de mal à assumer qu'un livre soit un produit commercial. Nous faisons ce type de campagne 7 à 8 fois par an lorsque nous estimons qu'un livre possède un potentiel impressionnant, précise Manuel Tricoteau, éditeur et directeur de collection chez Actes Sud. Notre démarche se situe loin de celle de maisons grand public comme Ixo Édition, où la communication constitue une étape obligée dans la publication d'un livre. C'est toute la singularité d'Actes Sud que d'être parvenu à concilier ce qui, sur le papier, semble s'apparenter au mariage mal embouché du talent et de l'épicerie. Mais le cocktail fonctionne. En 2015, la maison d'édition réalise même le Grand Chelem en décrochant son troisième concours avec Boussole de Mathias Hénard, auquel s'ajoute le concours du premier roman pour Meursault contre-enquête de Kamel Daoud, le Nobel de littérature avec Svetlana Alexievitch et la publication de deux des plus gros best-sellers de l'année, le fameux Millennium 4 et Le Charme discret de l'intestin de Julia Enders, l'aboutissement d'un long chemin et d'une stratégie marketing cousue au petit point. Le fondateur d'Actes Sud, Hubert Nissen, a réinventé l'objet livre grâce à un format différent de celui des grands éditeurs, un grain de papier particulier et des couvertures n'utilisant pas les photos habituelles, reprend Grégoire Delacour. Mieux, Actes Sud a été la première maison d'édition à communiquer dans le métro en 1997 et ça a fait du remous, confie Estelle Lemaître, directrice de la communication. Nous concevions nous-mêmes les campagnes. À l'époque, Gérard Gros, vice-président de Métrobus, souhaite ouvrir son réseau d'affichage aux musées, aux galeries d'art et aux livres en accord avec la RATP. Mon idée était de permettre à un secteur culturel disposant de faibles moyens de s'adresser au grand public via l'affichage publicitaire dans le métro, se souvient-il. Inversement, il était nécessaire de donner la possibilité aux gens de connaître l'actualité des livres et des spectacles. Le vice-président de Métrobus juge que les lecteurs du Monde des Livres ou du Figaro Littéraire sont des consommateurs acquis, car déjà très informés. Pour les autres, c'est une autre histoire. Un système formalisé d'échange marchandises, beaux livres de fin d'année, places de spectacle, se met alors en place, permettant aux acteurs culturels de pouvoir figurer dans le métro en payant 40% du tarif global, indique Gérard Gros. C'est ainsi que Paul Auster, Nancy Houston et Nina Berberova y feront leur apparition, aux côtés de campagnes pour Habitat ou Danone, très vite accompagnées et suivies par d'autres écrivains divers et, comment dire, éclectiques, comme le troisième opus de Bridget Jones de Helen Fielding, publié par J'ai lu et placardé ces derniers jours sur les murs du métro. On attend sur la question l'avis éclairé de Yann Moix et de Richard Millet.
Alors c'est quoi cette histoire de Yann Moix, puisque vous en reparlez?
Non, pas du tout. Moi j'étais restée au clash avec Patrick Sébastien. Il a traité Patrick Sébastien de connard, pardon, et voilà.
Parce que Yann Moix avait traité de salaud. Oui, parce que Sébastien, dans son livre, fait l'apologie de la violence familiale.
Non, je suis désolée, je peux rien dire là-dessus. Ce sont mes collègues qui sont totalement responsables de ce papier. Je n'ai pas d'informations supplémentaires.
Les trafics de questions.
I don't know.
Ah, c'est quand même.
Je n'ai pas d'informations non plus. Mais enfin, c'est vrai que le rapprochement avec Richard, la nouvelle petite affaire, enfin petite, non d'ailleurs, la nouvelle affaire Richard Millet.
Mise à pied, ça y est.
Oui.
Ils attendaient une occasion depuis longtemps.
Quelle étrange conception quand même de la vie éditoriale, de considérer que parce qu'on appartient à une maison, on ne peut pas taper sur les auteurs de la même maison. Enfin, c'est un oubli de leur propre histoire qui est tout à fait ahurissant. Si les auteurs chez Gallimard ne s'étaient pas tapés sur la tête pendant toute l'histoire de Gallimard, Gallimard ne savait pas ce qu'elle est aujourd'hui. Donc c'est, je n'ai, Dieu sait, aucune affection pour Richard Millet, mais enfin son droit de critiquer un auteur, ce qui est quand même, nous sommes bien placés pour le savoir, un phénomène naturel, surtout.
Non, dans le cas de Richard Millet, on se doute que Gallimard attendait une occasion pour le mettre
oui,
à pied.
Oui, mais c'est la plus mauvaise. Oui. C'est vraiment la plus mauvaise des occasions. Et si s'il s'avère, moi je n'ai aucune information non plus que cette histoire, moi, que c'est est vrai. On est devant un vrai problème on est vraiment devant des gens qui sont en train de scier la branche à laquelle ils sont assis. Enfin, c'est, pardon du cliché, mais il s'applique exactement parce que la littérature a au contraire justement besoin de ces polémiques, besoin qu'on s'écharpe autour des livres pour montrer que c'est toujours une chose vivante. S'ils veulent mettre une cloche et mourir sous cette cloche, qu'il continue comme ça.
Bon, et on fera de la publicité là-dessus. Bon, on verra si on s'écharpera tout à l'heure sur la zone. Avant cela, des recommandations qui émanent de chacun d'entre vous. On commence avec vous, Émilie Barnett, et un livre d'Elisabeth Sauvy, son vrai nom, aka Titiana.
Titiana, enfin c'est
Titaïna,
pas trop.
Titaïna, hein, moi voilà. Je dirais non.
Bah, l'éditeur a fait le choix d'utiliser son pseudonyme, oui, sur la couverture. Éditeur donc Marchiali qui signe là sa deuxième publication. La première, j'en avais parlé ici, s'appelait Tokyo Vice. C'était sur une enquête donc sur les mafieux japonais qui était tout à fait intéressante. Et là, de nouveau, c'est passionnant. Alors apparemment, Marchiali se spécialise dans le récit journalistique, le journalisme littéraire. Et alors là, c'est un choix vintage puisqu'il s'agit donc d'une journaliste un peu baroudeuse des années 20.
Très baroudeuse.
Très très baroudeuse parce qu'elle a parcouru littéralement le monde. C'est une pionnière du reportage littéraire façon Albert Londres, mais je dirais presque en plus rock'n'roll.
Plus gonzo déjà.
Plus gonzo, elle se met vraiment dans des situations pas possibles. Et elle a notamment séjourné dans la jungle, pardon, indonésienne, parmi les cannibales. Donc c'est un séjour qu'elle relate dans un premier texte qui fait une centaine de pages, qui est tout à fait passionnant. Notamment parce qu'elle met en lumière les liens que ces indigènes entretiennent entre leur anthropophagie et leur rite mortuaire. Elle explique qu'en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils gardent des cadavres dans leur hutte, qu'ils laissent pourrir, hein, qu'ils mangent leur chair, mais que c'est ça qui va libérer l'âme du mort au bout de quelques semaines, quelques mois, je sais pas combien de temps, là, voilà, ça, tout cela prend. Et donc, c'est presque un geste de libérateur qui permet aux habitants de faire le deuil. Donc, il y a ça, il y a aussi, elle suit à un moment donné un convoi de morts dans des caravanes à travers le désert au Moyen-Orient. Et comme tout cela se passe dans les débuts de l'aviation, il y a aussi toute une série de textes extrêmement amusants où elle raconte tout ce qui lui arrive, toutes les péripéties qui lui arrivent lorsqu'elle s'embarque dans ces espèces de coucous. Donc, il y en a un aviateur notamment qui lui demande de l'accompagner parce qu'il voudrait atterrir sur le Mont Blanc à ski. Mais avec son avion, enfin voilà, je sais pas, c'est un peu difficile à se représenter, mais voilà. Et puis, à un moment donné, elle va aux États-Unis et elle se retrouve dans un avion qui transporte des caisses de jeans parce qu'on est en pleine prohibition et voilà. Donc c'est vraiment très passionnant, très
boisson,
amusant.
Oui, Antoine,
c'est vraiment une photographie aussi de ce qu'est l'Europe dans les années 20, des rapports qu'entretiennent l'Europe et le Moyen-Orient. C'est la première femme, donc déjà une femme qui a peine à s'imposer dans un monde d'hommes, et c'est la première femme qui va interviewer Hitler. Première journaliste française à interviewer Hitler. Donc voilà, c'est tout un tas de choses un peu hétéroclites comme ça, mais qui donnent lieu à ces quatre textes tout à fait passionnants.
Réunis sous le titre Une femme chez les chasseurs de têtes de Titaïna, c'est aux éditions Marchiali. Donc, Une vie de paysage et une autre femme, Béatrice Comanger chez Verdier.
Et d'autres voyages de nature un peu différente où on rencontre moins de cannibales, mais on rencontre en l'occurrence Laurence Derelle. C'est un livre sur Derelle. Je dois dire que je n'ai pas de goût particulier pour les livres sur écrivains, les livres où on se fige un peu dans l'hommage. Et ce livre-ci de Béatrice Comanger est une surprise totale à cet égard. Enfin, ce n'est pas du tout ce qu'on pourrait craindre, c'est-à-dire un livre de pure célébration. Elle a fait quelque chose, elle a fait elle aussi au fond du journalisme gonzo, à distance. Elle est allée partout où dure elle est allée. De l'Inde à Alexandrie, évidemment, mais en passant même par l'Amérique du Sud, où il a passé un séjour épouvantable, etc. Elle avait connu Béatrice Comanger, avait connu Durel vers la fin de sa vie quand il vivait à Sommières, dans le sud de la France, dans le Gard. Et depuis, elle rêvait de faire ce voyage qu'elle fait. Et le récit de ce voyage devient vraiment une œuvre littéraire. Béatrice Comanger est un de ces auteurs peut-être un peu trop rares, mais dont je suis le travail avec beaucoup d'intérêt depuis longtemps, parce qu'il y a une écriture, il y a quelque chose qui est très puissant chez elle et très singulier. Et là, elle arrive à nouer ce qui est de l'ordre de la biographie de Durel, même si elle effleure certaines choses, elle choisit, elle trie très librement parmi les événements de sa vie, et un récit au fond autobiographique à travers Durel, qui est extrêmement touchant, extrêmement fort, et qui au fond est une manière de créer une sorte de communauté littéraire, c'est-à-dire qu'elle reprend toutes les questions de Durel autour de la notion de paysage en l'occurrence, c'est-à-dire autour de la notion de lieu, de la notion du lieu, si je puis dire, du territoire qu'on élit. Durel au fond qui a quitté l'Inde avec sa famille enfant vers 12 ans je crois, et qui a gardé toute sa vie la nostalgie de ça, a toujours essayé de retrouver cette espèce de paradis perdu en cherchant partout la terre promise. Et elle prend ce sujet pour en faire le sien, pour faire de ce livre la recherche aussi de la terre promise, du moment où on se dit dans un paysage, c'est là que je dois être, c'est là que je suis, c'est là que j'étais déjà quand je n'y étais pas. Et au fond, ça devient un livre sur Béatrice Comanger, comme héritière de Durel et de tous ses maîtres, Miller aussi, qui est évidemment très présent dans le livre. Et ça devient à travers toute cette espèce de communauté qu'elle réunit, un très très beau livre sur le monde, sur le paysage, mais au-delà du paysage, sur ce qu'on cherche à observer quand on observe le monde. Et c'est un très beau livre.
Une vie de paysage, le livre de Béatrice Comanger, est publié aux éditions Verdier. Dans quelques minutes, nous allons parler du livre de Marc-Yann Camiche, La Zone, chez Artaud. Avant cela, on retrouve tout de suite l'invité de la dispute, le chef d'orchestre et directeur de l'Opéra National de Bordeaux, Marc Minkowski, dont on peut retrouver l'actualité sur le site franceculture.fr, à la page de l'invité de la dispute.
Enchanté, comment allez-vous ? Très bien, merci. Et vous ?
Marc Minkowski, on est chez vous. Il y a des livres partout, évidemment. Il y a des livres qui sont là, j'imagine, pour le travail, pour le plaisir, mais c'est difficile de différencier les deux. Vos lectures, elles sont très orientées par rapport à votre travail ?
Oui, malheureusement. Et oui, heureusement, mais parce que j'ai plus le temps. J'ai plus le temps de lire.
De lire pour rien, entre guillemets, que pour le plaisir de lire.
Oui,
les lectures sont utiles.
C'est toujours en rapport avec les opéras que je suis en train de monter, que ce soit Beaumarchais, Le Tasse, c'est vraiment compliqué. Mais j'aime être entouré de livres, je suis entouré de gens qui lisent beaucoup. Ma mère est une traductrice d'arabe littéraire émérite. Elle traduit le poète Adonis. J'aime de temps en temps me replonger dans ses œuvres. Et c'est vrai que voilà, par la radio et par la télévision, quelquefois on entend maintenant de plus en plus parler de livres à lire. Alors ça me donne envie. Puis je trouve difficilement le temps de c'est une question de temps.
Ouais. Mais bon, il y a eu des époques où vous travailliez moins, et puis est-ce que, jeune homme, vous aviez comme ça des passions littéraires ? Est-ce qu'il y a des livres dont vous pensez qu'ils vous ont aussi, qu'ils ont constitué votre goût, votre façon de voir le monde, des livres qui ont été importants pour vous ? La note juste du chat.
J'ai des émotions très, très basiques hein, de lecteur, mais c'est sûr que la lecture des pièces de Molière quand j'étais adolescent à l'école est probablement, c'est probablement voilà, des choses qui m'ont complètement modifié, qui m'ont beaucoup marqué.
Mais ça ne vous a pas donné envie de monter sur scène, vous, Marc Minkowski, pour jouer du Molière? Alors, je sais que votre timidité est très grande, que même d'être devant un micro est compliqué, mais vous n'avez jamais eu l'envie d'être sur scène, vous?
J'ai une vocation de comédien donc, que j'ai un peu reconverti dans la direction d'orchestre. Et c'est vrai que j'avais un petit don pour ça. Et c'est vrai que ça m'arrive encore de temps en temps de, par exemple, de faire le récitant dans quelques œuvres que je dirige et que je récite en même temps. Comme le Don Juan de Gluck, par exemple. Pourquoi pas d'autres choses à venir.
Ouais, j'ai jamais eu la chance de vous voir dans cet exercice. Ça vous procure quoi comme sensation de porter aussi le texte?
Ça m'amuse. Ça me permet de communiquer avec le public de manière différente, avec des mots plus qu'avec des bras. Et du son. Mais là aussi, il faudrait un peu de travail pour perfectionner tout ça.
Je vous ai vu aussi vous amuser souvent dans Platé, mais ça, c'était un jeu, on va dire, sans parole. Mm-hmm. Ça vous amuse comme ça que cet espace, normalement, ça crée de la fosse d'orchestre, puisse être un peu bousculé par des incursions?
Absolument. Absolument, mais bon, c'est des choses qu'on peut trouver dans d'autres formes. Voilà, ou dans des formes comme le spectacle équestre, quelque chose que j'aime énormément, j'ai monté des spectacles avec Bartabas, enfin un spectacle, puis un nouveau à la Mozart for All l'année prochaine. Quand je prépare aussi avec Manu Bigarnet Tact et Tempo, qui est un spectacle qu'on a créé à l'île de Ré, qu'on a repris, qu'on reprendra encore. Voilà, il y en a une façon d'être, grâce à l'animal et à sa dynamique, on a un côté beaucoup plus proche du public que j'aime énormément. Oui, oui, non, mais il y a beaucoup de choses à imaginer et à trouver.
À suivre. Nous poursuivons cette dispute consacrée le vendredi soir à la littérature avec encore un premier livre qui nous vient encore de l'Europe de l'Est et plus précisément d'Ukraine. Son auteur, Markian Kamysh, est né à Kiev en 1988 dans une famille de liquidateurs de Tchernobyl. La zone qui donne son titre à ce livre, c'est la zone d'exclusion nucléaire que l'auteur a arpenté des dizaines de fois, comme nombre d'autres personnes, pour des randonnées solitaires ou pour y accompagner parfois aussi des touristes en mal de sensations fortes.
Tune into the melody.
saturé par les slogans utopiques et les chimères foireuses de la super-propagande et du super-urbanisme soviétique, nous avions bâti un rêve. Un rêve dopé à l'énergie atomique, civile et pacifique, moteur de l'économie socialiste et corne d'abondance écarlate de notre futur communiste. Fascinés par notre propre puissance et forts d'une confiance sans limite en notre avenir, nous construisions des centrales nucléaires à travers toute l'URSS. L'une des plus puissantes portait le nom de Tchernobyl. Les barres d'immeubles flambant neuves de sa ville satellite avaient émergé des forêts en un clin d'œil. Au sommet des tours, des slogans géants s'étalaient glorieusement sur les façades pendant que les enfants joyeux s'égayaient bruyamment dans les aires de jeu. Un supermarché et un restaurant avaient ouvert. Les petites annonces du genre « échange appartement à Odessa contre logement à Pripyat » fleurissaient sans étonner personne. La ville nouvelle nucléaire, avec ses grands airs de cité de science-fiction, illuminait le fin fond de la Polésie. Tout à Tchernobyl laissait présager un développement éclair, un aménagement exemplaire et des perspectives neuves. On s'apprêtait même à construire une promenade champêtre semée de petits ponts et de lampadaires. La centrale électrique allait être agrandie de plusieurs nouveaux blocs. Joie et bonheur se profilaient à l'horizon comme une apothéose, jusqu'à ce que ça pète et que le quatrième bloc finisse éventré. Tchernobyl, telle l'étoile absinthe, s'est alors enchâssée comme une émeraude empoisonnée dans la couronne de la Polésie. Après des années de doux rêves, notre gueule de bois fut très sévère. Ce sont les premiers mots, les deux premières pages de ce livre de Markiam Kamish, La Zone, publié chez Artaud dans une traduction de Natalia Ivanichko. Et c'est Émilie Barnett qui commence à nous en parler.
Oui, absolument. Mais j'ai été très, très frappée par ce livre, par sa grande beauté. Il faut dire effectivement qu'il a été écrit par un jeune homme de 28 ans qui n'a pas connu l'explosion,
la catastrophe
de, nucléaire de Tchernobyl, qui est née 2 ans plus tard, mais dont le papa, vous l'avez rappelé Arnaud, était liquidateur. Donc liquidateur, pour rappel, ils ont été à peu près 100 000 pendant une décennie à venir nettoyer, décontaminer le site de Tchernobyl. Son père, il le dit dans son livre, a été sur le réacteur 4 2 mois après la catastrophe. Il est mort quelques années plus tard. C'était un scientifique, hein, faut le dire. Il y allait comme volontaire. Il savait très bien ce qu'il s'y passait. Il savait très bien que ça le condamnait. Et voilà, il est décédé quelques années plus tard des suites de sa contamination. Donc voilà, et ce que raconte Markiam Kamish dans son livre, c'est qu'il a pendant de nombreuses années été dans le déni de cette mort, qu'il n'a pas voulu s'intéresser à cette catastrophe, et puis arrivé à 20 ans, il se dit mais qu'est-ce qui au fond a tué mon père, voilà, et qu'est-ce que c'est que cette zone, et donc il a pris son sac à dos et il s'est lancé dans une série d'expéditions qui dure maintenant depuis 6-7 ans, je crois, à raison d'une douzaine d'expéditions par an. L'éditeur le rappelle, en quatrième de couve, il a parcouru, plusieurs milliers de kilomètres, près de 10 000 kilomètres. Voilà. Donc déjà, en soi, le projet que recouvre ce texte est assez fascinant. Il faut dire que Markiam Kamish n'est pas isolé. Il y a beaucoup
de
clandestins
dans la zone.
Dans cette zone, en fait, entre les gens qui sont là pour travailler, les scientifiques, les gardes frontières. Bon, pour la population officielle des lieux, mais aussi des braconniers, des trafiquants de fer,
des clodos,
des bois, voilà, des marginaux, des pillards. Enfin, vraiment, il y a toute une petite micro-société.
Et les touristes, donc,
dans cette zone. Et alors, les touristes, effectivement, ils sont.
On
le
a
tourisme
quelques récits,
est ouvert,
là, ouais.
Mais depuis fin des années 2000 ou début des années 2010, mais c'est le gouvernement ukrainien qui encadre tout ça. C'est très, très.
Non, mais il y a les touristes clandestins, comme il leur raconte.
Alors,
les expéditions.
Les touristes clandestins, c'est évidemment à la barbe des gardes frontières, c'est sous les barbelés, et là, c'est expédition de 2 jours, 3 jours, parfois 1 semaine, pour arriver jusqu'à Pripyat, donc c'est cette
ville
avec les bars.
La ville dortoir de Tchernobyl.
Voilà, les bars HLM, vous savez, ces photos qui ont fait le tour du monde. Et donc, Markiam Kamish, qu'est-ce qu'il fait dans cette zone? Mais en fait, il est comme un vagabond, au sens quasiment baudelairien. Il l'a arpenté, il l'a visité, il l'a exploré, il en connaît
photographié,
il en connaît les moindres recoins. Et Et au terme, à chaque fois, de chaque incursion, il décide de prendre des notes, de noter des observations, ses impressions de promeneur. Et au final, ça donne un texte qu'on pourrait imaginer lugubre, flippant, catastrophiste. Et en fait, c'est un texte, je dirais presque zen, d'une sérénité et d'une beauté rare. On y retrouve vraiment, enfin, le narrateur qui est Marc-Anne Camiche est vraiment dans le rôle du promeneur, encore une fois tel qu'on le trouve dans la poésie romantique, c'est-à-dire le promeneur, le flâneur, c'est celui qui regarde la nature, qui regarde le paysage, qui dialogue avec cette nature à son âme et à qui ça renvoie à des états intérieurs, à des rêveries. Donc, faut dire quand même que dans ce livre, la zone est qualifiée d'oasis de bonheur, de huitième merveille du monde. C'est vraiment un texte ultra poétique. Voilà, où on va croiser tout un tas de personnages très très hauts en couleur, très truculents, très inquiétants aussi, mais voilà, qui est associé, assimilé à un terrain de liberté, un lieu de subculture vraiment, où des jeunes gens réalisent quasiment leur initiation, où il est dit qu'ils vont gober du LSD, alors pas tous, d'autres faire l'amour, d'autres passer des nuits comme ça à rêver, regarder la voûte étoilée, et c'est quasiment un rite d'initiation à l'âge adulte, de passage à l'âge adulte. Voilà, pour toutes ces raisons, vraiment, j'ai été, entre autres, j'ai été très séduite par ce livre.
Florent Georgescu, La Zone.
C'est la réalité qu'il décrit est tout à fait passionnante. Vous avez raison, enfin, c'est assez fascinant. Je ne sais pas si c'est vraiment un promeneur. Ce que vous venez de dire me paraît plus le définir mieux la population à laquelle il fait partie. Lui, c'est des teufeurs, quoi. Pour le dire très trivialement, c'est quand même on va s'éclater. Le rapport à la drogue.
Fait des réveillons là-bas.
Je parle de lui, pas de ses.
Non, mais fait des réveillons, des feux d'artifice.
Oui, mais lui, il va aussi. On s'aperçoit que c'est en effet. Vous parlez de sous-culture, enfin de subculture. On voit que c'est un lieu de. C'est comme des friches industrielles dans une autre ville. Enfin bon, c'est une friche industrielle.
C'est un très 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 grand squat.
C'est un grand squat, exactement. Et donc c'est assez fascinant de découvrir ça. Le rapport à la drogue est très intéressant d'ailleurs, puisque il y a la drogue des drogues à Tchernobyl, c'est-à-dire la radioactivité. Il y a aussi cet aspect dans le livre, oui, d'assumer le risque. Il y a quelques pages vers la fin où il prévoit le moment où ils se retrouveront tous dans 10 ans dans un pavillon des cancéreux, si je puis dire, parce que ils prennent des risques absolument terrifiants. En effet, tout reste terriblement contaminé à Tchernobyl, et il raconte très bien comment au début certains veulent avoir des règles, veulent avoir des formes de prudence, et comment finalement tout le monde s'y met, tout le monde boit ce qui se trouve là, tout le monde oublie ou plutôt jouit de la du risque de contamination. C'est au fond, c'est un livre sur cette drogue-là, sur la drogue nucléaire, qui est assez excitant. Mais moi, j'ai plus de réserves sur le texte en tant que tel. Je trouve que avec ce genre de livre, vous l'évoquiez à propos du livre de chez Marchali, à propos de cette sorte de narrative non-fiction, le grand risque est de croire que la réalité se suffit et que l'évoquer et la nommer, la désigner, suffit à la faire vivre dans un texte, alors que les moyens de faire vivre la réalité dans un texte de reportage ou de récit réel comme ici, les manières de faire exister tout ça sont les mêmes que dans le roman. Et là, et je trouve que là, il ne les prend pas suffisamment. Emily Barnett le disait, il y a plein de personnages qui passent, qui ont l'air très amusants, mais au fond on ne les voit jamais vraiment, il ne fait pas exister ces personnages, il ne fait pas tellement exister les scènes, et il y a dans l'écriture même quelque chose qui est assez accrocheur, assez séduisant. La première page que vous avez lue, Arnaud, est
sans doute la plus écrite,
elle est belle, mais il y a tout le long du livre quelque chose de ce rythme là le problème étant qu'il y a justement toujours ce rythme, c'est-à-dire tout est un peu dans la même saccade et tout glisse un peu sur cette réalité beaucoup plus passionnante étonnante et à laquelle on rêve plus qu'on y pénètre dans le livre.
Là, je rejoins assez Florent Georgescu, c'est-à-dire que moi, c'est un livre qui m'a, voilà, que j'ai vraiment aimé lire parce que c'est, mais pour son aspect document ou documentaire plus que pour sa prose, même si par moment il y a comme des éclats, mais presque à l'insu de son plein gré. Marc M. Kamisch, il y a quand même des pages ou des morceaux de pages plus saisissants, mais ce qui m'a intéressé, c'est le côté extrêmement concret. Quoi. C'est quand même une sorte de guide du routard de la zone avec des conseils pratiques. Ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Et après, il y a effectivement ces pas de côté, c'est-à-dire quand il parle des animaux, quand il parle au sens romantique de la beauté des ruines, enfin, il y a tous ces passages-là, mais c'est un peu sans filtre qu'a été écrit ce texte, et ça fait partie de son charme en même temps. Mais, voilà.
Oui, mais aussi d'une sorte de légèreté qui fait que pour moi, on n'accroche pas, on ne tient pas les choses qui sont nommées dans le livre, et donc on glisse un peu dessus. Pardon, juste. Ouais. Pour illustrer ça, il met à la fin un plan de Tchernobyl avec une description. Enfin, il y a une dizaine de pages à la fin qui est une sorte de répertoire des lieux de Tchernobyl. Au fond, ça montre la faiblesse du livre, à mon avis, parce que justement, tout cela, la fin du livre, on devrait le connaître parfaitement.
Faiblesse
on devrait
littéraire,
avoir arpenté avec lui. Oui.
Moi, j'avoue que je n'ai pas lu les descriptions de la carte de la zone parce que ce n'est pas ça qui m'intéressait.
Ça, je crois que c'est un ajout suggéré par son éditeur français.
Oui, mais
ça carte.
Révèle le manque. Tout cela devrait être non pas sous cette forme, mais
déjà
concrètement imprégné. Dans le texte. On devrait, quand on est dans un lieu, voir ce lieu, on ne le voit pas.
Voilà. Dernier mot d'Émilie Barnett.
Non, mon dernier mot, c'est qu'il se trouve que l'auteur prépare une fiction. Donc son deuxième livre sera une fiction sur les clandestins de la zone. Et donc à ce moment-là, votre vœu de fictionnalisation des lieux sera réalisé.
On verra.
Pas de fictionnalisation.
Je pense qu'on est dans le tempo d'une promenade, d'une errance, et qu'effectivement, dans une errance, il n'y a pas de progression au sens fictionnel, machin. Ça ne veut pas
dire que
Kamisch n'use pas d'outils éminemment littéraires. Pour moi, on est face à un texte littéraire parce que, très sincèrement, un texte sur Tchernobyl, moi, je m'en fiche un peu. Et si j'avais ouvert ce livre, j'avais pas eu la sensation vraiment d'être attirée dans un monde qui nous apparaîtrait sous forme aussi d'images et de métaphores, ça ne m'intéresserait pas. Et là, je trouve au contraire qu'on a une vraie écriture très 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 puissante, très entêtante, et voilà, je tiens cet auteur pour un
déjà
presque
écrivain.
Déjà grand auteur.
Carrément.
Je lirai son roman. Juste un petit mot pour dire sur le même sujet, parce que ça m'a amusé qu'on en parle. J'étais en train de lire un livre qui vient de paraître aussi de Galia Ackerman, qui est une grande spécialiste de Tchernobyl. Un livre qui s'appelle Traverser Tchernobyl, qui est chez Premier Parallèle, une jeune maison qui fait des textes assez passionnants. Et c'est un très beau livre d'une nature tout à fait différente, qui restitue ces différentes enquêtes sur Tchernobyl avec une vraie profondeur de champ, notamment sur la question soviétique, sur le fait. Elle montre merveilleusement comment Tchernobyl est une sorte de d'Union soviétique figée, puisque tout est resté comme
alors
à l'époque.
Que Marc-Yves Kamisch parle de la spéculation des lieux, justement, via les réseaux sociaux, et ça, c'est très très intéressant.
Oui. Non, mais c'est deux plans absolument différents, mais ce livre est très très intéressant.
Renvoyons quand même à Svetlana Alexeyevitch et La Supplication, qui reste quand même le livre le plus important sur Tchernobyl, évidemment cité, mais qui est quand même une œuvre à lire, comme à peu près tous les livres quand même de Svetlana Alexeyevitch.
On ne le répétera jamais assez.
France Culture,
La Dispute,
Arnaud Laporte.
Nous concluons avec le jeu de La Dispute. Antoine Guillot, rappel du jeu d'hier soir d'abord.
Vous avez gagné des invitations pour l'exposition Habiter le campement à la Cité de l'Architecture et du Patrimoine à Paris. Je vous avais demandé quelles sont les 6 typologies de campements établies pour l'exposition. Eh bien, ce sont les nomades, les voyageurs, les infortunés, les réfugiés, les conquérants et les contestataires.
Ce soir, exposition encore, celle de Paola Modersohn-Becker au Musée d'Art Moderne de la Ville de Paris jusqu'au 21 août. Pour gagner des invitations, il faut répondre à quelles questions?
Quel poète rendit hommage à l'artiste après sa mort à l'âge de 31 ans, avec le poème « Requiem pour une amie ».
Votre réponse avec vos coordonnées postales à envoyer à auditeurfcr@radiofrance.com. Et ainsi s'achève la dispute de ce soir. Merci à vous, Émilie Barnett, Florent Georgesco et Antoine Guillot. Toutes les informations sur cette émission sur franceculture.fr, à la page de la dispute. Dispute possible grâce à Hugo Boursier, Daniel Finot, Antoine Guillot, Flora Isidore et Virginie Le Duo. Prise de son assurée ce soir par Jean-Richard Dufour. Réalisation Daniel Finot. Je vous donne rendez-vous lundi à 21h pour une dispute consacrée au spectacle vivant en compagnie d'Anna Sigalevitch et Fabienne Pascot. Nous parlerons de Bovary, de Thiago Rodriguez, d'après Gustave Flaubert, sous terre de la Bastille, et la dernière bande de Samuel Beckett, mise en scène Peter Stein au théâtre de l'œuvre. Je passerai un coup de fil à Philippe Beau. Nous retrouverons Antoine Guillot pour une revue de presse culturelle. Les choix de la soprano Patricia Petitbon, invitée de la dispute, un nouveau cadeau à gagner. Tout cela, c'est pour lundi. Avant cela, vos programmes se poursuivent sur France Culture. À 22h15, Laure Adler avec Hors Champ et dans quelques instants, le journal de la rédaction.